Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine encore. Aujourd'hui, comme thème, la liturgie, l'importance des rites à l'Église, dans la vie de foi, le lien entre la liturgie et la vie, et la responsabilité de l'Office national de liturgie, le secteur francophone. Et nous avons comme invité Daniel Laliberté, directeur national de l'Office national de liturgie, secteur francophone, de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Bienvenue, Daniel Laliberté.
Bonjour, Renaud. Merci de m'avoir invité.
C'est un plaisir que vous soyez avec nous. Et dites-moi en quelques mots votre cheminement dans l'Église, vos diverses expériences. Et ce qui vous a amené au Luxembourg, on va préciser ça tout à l'heure, parce que vous avez été plusieurs années au Luxembourg, donc au Québec, à Québec, au Québec, au Luxembourg. Et ce qui vous a amené à ce poste de directeur de l'Office national de liturgie, le secteur francophone?
Bon, tu as dit en partant en quelques mots. Disons que rendu à l'âge où je suis, il y a beaucoup de phases de mon cheminement, mais je vais essayer de résumer ça. En remontant déjà au fait que, bon... En 88, je finissais une maîtrise en écriture sainte à l'Université Laval. Et tout de suite après, j'ai eu la chance d'être engagé par le séminaire Saint-Augustin, collège privé de la région de Québec, pour faire de l'enseignement aux étudiants au niveau collégial. Et déjà là, je trouve important de le mentionner, ça m'a déjà permis de prendre conscience, parce qu'il y avait des cours obligatoires en religion, on regardait ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils avaient retenu d'un parcours qu'ils avaient déjà fait, des sacrements et tout ça. Puis déjà de constater que, oups, il y a des choses qui fonctionnent plus dans notre transmission de la foi. J'élaborerai pas plus que ça, mais simplement pour dire que déjà, des éléments se mettaient en place dans ma réflexion personnelle. En 95, j'ai perdu mon emploi au séminaire Saint-Augustin parce que le collège fermait. Phénomène de sécularisation très important. Hein, la raison d'être même du collège était en train de disparaître, donc le collège a fermé. Mais ça m'a donné la chance d'être engagé à ce moment-là par les services diocésains du diocèse, de l'archidiocèse de Québec. Et on m'a confié des responsabilités en initiation chrétienne et en liturgie. L'initiation chrétienne, c'était déjà pas mal dans mes cordes, si on peut dire. La liturgie, à ce moment-là, ce que j'avais comme expérience de la liturgie, c'était surtout des célébrations que j'avais eu l'occasion de préparer comme jeune chrétien et tout ça. Je n'avais pas de formation spécifique en liturgie, sinon les petits bouts qu'on attrape dans un baccalauréat en théologie. Mais j'ai quand même été très bien initié par le responsable diocésain de l'époque. Hein, c'était l'abbé O'Neill Godbout qui était responsable. Puis je tiens à ajouter, parce que ça va finir par être bien important dans mon parcours, que en tant que membre de l'équipe, je participais aux rencontres de ce qu'on appelait la table interdiocésaine de liturgie. Et à ce moment-là, on parcourait le livre de Paul de Clercq qui s'appelait « L'intelligence de la liturgie » et on commentait ça quand on se retrouvait. Et pour moi, ça a fait une sorte de « wow ». De découvrir comment, alors que j'avais pas de formation spécifique, là, de découvrir comment la liturgie peut receler, quand c'est bien fait, là, mais là, on pourrait toujours discuter qu'est-ce que c'est une liturgie bien faite, mais tout ce que ça a comme potentiel, une célébration liturgique bien faite, là. Et donc là, c'était comme l'ouverture de tout un champ de réflexion nouveau. Comme j'ai dit, l'initiation chrétienne, ça, c'était déjà un petit peu plus familier pour moi. Puis j'avais constaté là les difficultés qu'on avait dans la transmission de la foi et tout ça. Ce qui était de plus en plus évident pour moi, c'est que le lien entre la foi et les sacrements se disloquait de plus en plus. Plus ça allait, moins on célébrait quelque chose comme une profession de foi par les sacrements. C'était une tradition qui perdurait et tout ça. Et cette question-là, je pense qu'elle est encore pertinente aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que dans ces premières années-là au diocèse, déjà, les choses continuaient en tout cas à se mettre en place dans ma tête. Il y a quelque chose qu'il faut changer là-dedans. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, il faut que j'ajoute, ça aussi c'est absolument déterminant, que c'est à ce moment-là que j'ai découvert le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Alors, quand on parle d'initiation chrétienne des adultes, on parle en même temps de catéchèse, donc d'initiation chrétienne, et de liturgie. Et là, ça me permettait de faire des connexions entre les deux. Et entre autres, il y a une petite phrase là-dedans. Cette phrase qui passe souvent inaperçue, qui dit ceci. Donc, ça dit, par cette démarche, par la démarche du catéchuménat, les candidats sont conduits à célébrer avec fruit en temps opportun les sacrements. Ça a l'air anodin comme phrase, là, mais pour moi, c'est une clé de lecture importante. Les sacrements vont être célébrés avec fruit s'ils sont célébrés en temps opportun. Bon, vous voyez tout de suite la question. Que ça veut dire se célébrer en temps opportun? On rentre pas tout de suite là-dedans.
On va y arriver, Daniel, la liberté.
Ouais, mais vous voyez comment ça faisait un bout de, ça travaillait dans ma tête, là, toutes ces questions-là, quand je me posais la question, qu'est-ce qui fonctionne plus dans nos mécanismes d'initiation chrétienne?
Mais ce sont des questions que vous continuez d'approfondir, Daniel Laliberté, dans votre cheminement aussi.
Ah ben, il faut encore les creuser parce que et vous allez voir comment vous avez évoqué tout à l'heure le fait que je suis allé au Luxembourg. Ben, il y a tout ça parce qu'il faut que je dise que je saute une étape où qui passe un peu vite là. Pendant 4 ans, j'ai travaillé en région pastorale dans Charlevoix. J'ai travaillé dans Charlevoix et ça aussi, ça m'a fait continuer à creuser la question. Tout ça m'a amené à décider en 2002 de me lancer dans une étape nouvelle de ma vie, à faire un doctorat.
Donc, à faire un doctorat, Daniel Laliberté.
Ouais, en 2002, je me suis lancé dans un doctorat, et un doctorat où j'étais inscrit en même temps à l'Université Laval et à l'Institut catholique de Paris. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du livre de Paul de Clercq, L'intelligence de la liturgie. Ben, mon directeur de thèse du côté de Paris, c'était Paul de Clercq, un spécialiste en liturgie, donc et en initiation chrétienne. Puis en plus, j'avais à Québec l'abbé Gilles Routier, pas quand même...
c'est quand même réputé.
Oui, très, très réputé aussi.
Pour vous êtes bien entouré, Daniel Laliberté, vous êtes bien accompagné, Daniel Laliberté.
Je pense que ça a donné une réflexion assez fructueuse. Et ma thèse, c'était un travail à partir d'une petite phrase, cette fois-là, qui était tirée du directoire général de la catéchèse, qui était paru en 96, qui disait que le catéchuménat, c'est le modèle de toute initiation chrétienne. Alors pour moi, qui me réfléchissais depuis plusieurs années à, d'un côté, qu'est-ce qui fonctionne plus dans nos mécanismes d'initiation chrétienne des jeunes, puis qui avait tombé sur cette phrase magnifique du rituel d'initiation chrétienne des adultes, qui disait qu'il fallait célébrer en temps opportun et tout ça. Là, les liens se faisaient dans ma tête. Alors j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur qu'est-ce que ça veut dire en pratique, transposer dans l'initiation chrétienne des jeunes, les principes qu'on trouve dans l'initiation chrétienne des adultes, le catéchuménat comme modèle d'initiation chrétienne. Voilà, et tout ça m'a amené donc à produire une thèse de doctorat sur ce sujet-là. Je pourrais élaborer longtemps là-dessus, là, mais il faut avancer dans mon parcours. Une fois le doctorat terminé, donc je suis retourné travailler au diocèse de Québec. Je suis devenu, entre autres, directeur du Centre catéchétique de Québec. Et c'est pendant que je faisais ça qu'à un moment donné, est tombé dans ma boîte de courriel un courriel qui m'avait été transféré par Gilles Routier, justement. Ça venait du Luxembourg. Le directeur du Grand Séminaire de Luxembourg cherchait du côté du Québec quelqu'un qui aurait la formation académique et aussi le côté réflexif et pratique sur des questions de catéchèse. Parce que au Luxembourg, le gouvernement venait de décider qu'il n'y aurait plus d'enseignement religieux à l'école. Et donc, il fallait qu'ils trouvent une façon d'implanter la catéchèse en paroisse, ce pourquoi ils n'avaient aucune expérience, parce qu'ils avaient vraiment confié tout ça à l'école depuis des décennies. Et ça donne que le directeur, l'abbé Jean Hérette, il savait qu'au Québec, on était passé par là pas trop longtemps avant. Alors, il a tendu un peu une perche du côté du Québec, en s'adressant à Gilles Routier à la faculté, puis Gilles me connaissait. Il dit « Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait intéresser Daniel, ça. » Et effectivement, j'ai parlé avec lui, avec le directeur de là-bas, et j'ai fini avec mon épouse par décider de plonger dans cette aventure, de m'en aller au Luxembourg avec un titre de professeur de séminaire. Au début, j'avais pas d'étudiant, mais c'est pas ça qu'on me confiait. De toute façon, au début, on me confiait de piloter le processus d'implantation de la catéchèse dans les paroisses luxembourgeoises. Vous voyez, on est un peu loin de la liturgie pour le moment, mais pour moi, ça va toujours ensemble. Catéchèse et liturgie, c'est pas pour rien que j'ai fait une thèse sur le catéchuménat. Catéchèse et liturgie, ça va toujours ensemble. Surtout quand on pense au fait que l'initiation chrétienne conduit à célébrer des sacrements, donc on a une composante liturgique partout. Alors, j'ai plongé dans cette expérience-là qui a duré 7 ans, finalement. On pourra parler peut-être plus tard des réussites, des bons coups, des moins bons coups de ce parcours au Luxembourg. Mais donc, c'est un parcours qui a duré, comme tu dis là, pendant environ 7 ans.
Daniel Laliberté, qu'est-ce qui vous amène à être directeur du secteur francophone de l'Office national de la liturgie?
Bon, donc après 7 ans, l'avant-dernière année, c'était la fameuse année de la pandémie, donc 2020. On l'a passé au Québec avec mon épouse. On s'est enfui du Luxembourg pour pouvoir passer la période de confinement au Québec. Et on s'est rendu compte qu'on était bien quand même dans notre pays, chez nous. Et ça a commencé à travailler dans notre tête, le fait de se dire, ouais, peut-être. Puis là, il y a des petits-enfants qui commençaient à arriver, hein, parce que je suis laïque, ben, je l'ai dit depuis tout à l'heure, j'ai mon épouse, on est des grands-parents, maintenant il y a le septième qui va arriver bientôt. Disons que ça, l'élastique tirait du côté de, pour nous ramener du côté du Québec. Mais là, il fallait que j'aille un emploi quand même. Je pouvais pas revenir. Je suis pas à l'âge de la retraite encore. Et ça donne que, ben, j'ai un frère qui est évêque, Martin, la Liberté.
Évêque de Trois-Rivières.
Évêque de Trois-Rivières maintenant, qui était auxiliaire à Québec à ce moment-là, qui a vu passer le fait que, le poste de directeur de l'Office national de liturgie devenait disponible pour l'été suivant, donc l'été 2021, qui m'a transmis ça. J'ai considéré la chose, j'ai fait l'entrevue, on a accepté ma candidature finalement, et donc en septembre 2021, après donc ces années au Luxembourg, je suis devenu directeur de l'Office national de liturgie.
Daniel Laliberté, quel est le mandat de l'Office national de liturgie? Parce que c'est peut-être un peu obscur pour plusieurs personnes. Mm-hmm. Peut-être qu'on voit le nom passer. On connaît des outils qui sont mis à la disposition des paroisses, mm-hmm. Des églises. Mais l'Office national de liturgie, quel est son mandat?
Bon, c'est un mandat qui est d'abord au service des évêques, donc de la Conférence des évêques du Canada, secteur français, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai une collègue qui s'occupe exactement de la même chose que moi, mais pour le secteur anglophone. Donc, comme la liturgie est beaucoup liée à des textes, à des célébrations dans des langues précises, il y a deux secteurs, francophone et anglophone. La responsabilité, donc, est d'être au service des évêques, mais à travers ça, je dirais plus largement, au service de la qualité de la liturgie dans les communautés chrétiennes, à travers plusieurs organes. Évidemment, on n'est pas en première ligne, hein. On est un petit peu au service de ceux qui sont eux-mêmes au service, si on peut dire. Donc, on prépare des outils. Il y a des outils qui sont assez connus, là. Dans ceux qui sont dans le domaine de la liturgie, c'est assez connu. Par exemple, c'est notre office qui prépare l'ordo. Bon, l'ordo, je peux expliquer un petit peu ce que c'est.
Ça serait bien, oui, d'expliquer l'ordo, parce que c'est utile, ouais, mais peut-être moins connu.
L'ordo, c'est un petit cahier, finalement, une sorte de calendrier, mais qui précise à chaque jour, voici, aujourd'hui, c'est telle fête, à telle date, c'est telle fête, et donc la couleur liturgique, ça va être soit du violet, du vert, du rouge, du blanc, en fonction de la date, en fonction de la fête. Voici les textes qu'on doit utiliser aujourd'hui dans le missel, dans le lectionnaire, pour la liturgie des heures. Donc, qui précise toutes ces choses-là, jour après jour. De sorte que, par exemple, il y en a souvent une copie qui traîne dans la sacristie, parce que le sacristain va avoir besoin de savoir quel linge liturgique il doit sortir, quelle page il doit préparer le missel ou le lectionnaire, des choses comme ça. Donc, petit outil très, très, très pratique dont tous les prêtres et tous les sacristains se servent quotidiennement, finalement. Donc, ça, c'est un exemple. Ça, c'est du très, très, très concret.
Mais par rapport à l'ordo, c'est aussi ce qui permet de fêter, de préciser les dates de fête des saints et des saintes canadiennes, parce qu'il y a tellement de saints et de saintes qui ont été reconnus par l'Église que tout n'est pas fêté au même niveau. Est-ce que je comprends bien ce que fait l'ordo?
Ben, en fait, l'ordo ne fait qu'appliquer des choses qui sont précisées ailleurs, hein. Il faut dire que l'ordo ne décide rien. L'ordo n'est simplement qu'un outil où ce qui est décidé ailleurs est mis en forme pour ce jour-là. Par exemple, le 6 mai, fête de Saint-François de Laval, par exemple, c'est celui-là qui me vient à l'esprit maintenant. On trouve dans l'ordo, si on tourne les pages, qu'on arrive au 6 mai, c'est là que ça va être précisé. Les textes qu'on va trouver dans le missel, pour la fête, mais c'est pas uniquement pour les saints de chez nous, là. Tous les saints qui sont dans le calendrier général et les propres, ceux qui sont dans ce qu'on appelle le propre du Canada, on va aussi les trouver là-dedans. Je sais pas jusqu'où il faut aller dans le détail, là, mais c'est ça qui est le principe, finalement, là. C'est un petit calendrier qui nous dit jour après jour quelle est la fête d'aujourd'hui. Et souvent, la fête d'aujourd'hui, ça va être la fête d'un saint ou d'un bienheureux. C'est ce genre d'outil très pratique.
Et Daniel Laliberté, il y a aussi une revue, Vivre et célébrer.
Mm-hmm. Oui, parce qu'on n'est pas toujours dans le petit, très concret du jour le jour d'un calendrier. On a aussi un mandat de soutenir la réflexion et la formation en liturgie. Et la revue est une des façons de le faire. Donc la revue Vivre et célébrer, qui est une revue en format numérique, gratuite, à laquelle tout le monde peut s'abonner, qui offre à la fois à chaque numéro un dossier sur un sujet en particulier. Par exemple, celui qu'on est en train de préparer, ce sera sur l'héritage du pape François en matière de liturgie de sacrement. Donc, on a un pape qui nous a quittés il y a quelques mois, et on s'est dit que même si c'est pas ce qu'on connaît le plus de François, on y est beaucoup plus connu pour son engagement social, cette dimension-là, mais il y a quand même un certain héritage autour de la liturgie des sacrements, de son parcours de 11-12 ans là, comme pape. Et donc, on s'est dit que nous, puisque notre mandat de revue, c'est la liturgie, on va faire un numéro spécifiquement sur son héritage dans ce domaine-là. Donc, il y a toujours un dossier avec réflexion et on essaie d'être concret, des témoignages, des choses comme ça. On a des chroniques aussi pour mettre des choses en évidence, des façons de faire bien concrètes en liturgie. Donc, cette revue-là, on a quand même un bon nombre d'abonnés, là. Au moment où on me pose la question, je sais pas le nombre d'abonnés, mais je sais que c'est clairement plus que 1000 abonnés là, des gens qui régulièrement, autant au Canada qu'en Europe, suivent régulièrement les réflexions de notre revue.
À question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Daniel Laliberté, qui est directeur de l'Office national de liturgie, le secteur francophone. Daniel Laliberté, on a l'impression, pour certaines personnes du moins, et j'aimerais vous entendre là-dessus, ce que vous répondez, c'est qu'on a l'impression que la liturgie, donc les rites à l'église, que ce soit la célébration eucharistique, que ce soit les baptêmes, les funérailles, etc., que ça semble un petit peu figé. Quelle est votre vision de la liturgie? C'est si figé que ça.
C'est une belle question, ça. Par quel bout je prends ça? Je retourne à un article que j'ai écrit avec une collègue il y a déjà plusieurs années, quand je travaillais au diocèse de Québec, qu'on avait intitulé « Faisons confiance à notre partition ».
Faisons confiance à notre partition.
Notre partition, en référence à une partition musicale. Vous savez, quand on va écouter un concert, on va pas écouter une partition. On va écouter l'interprétation par soit un instrumentiste, un chanteur ou tout un orchestre, l'interprétation d'une partition dirigée par un chef d'orchestre et tout ça. Je fais un petit peu la comparaison. En liturgie, on a des livres et on a le livre liturgique lui-même, le lectionnaire, le missel, le rituel pour le baptême et tout ça. Et on a, après ça, des gens qui ont à mettre ça en œuvre à partir des principes qui sont là-dedans. La liturgie, c'est pas le livre. La liturgie, c'est la façon dont c'est mis en œuvre. Et je dirais que dans une célébration liturgique, il y a... D'abord, dans toute célébration, il y a une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre qui varie en fonction des moments. Il y a des périodes dans une célébration liturgique où le président ou celui qui est responsable du chant, etc., ont de la marge de manœuvre, le choix des chants, la façon de formuler les monitions, etc. Puis en même temps, il y a une partie de la liturgie où il n'y a pas de marge de manœuvre et on veut que ce soit comme ça. Pourquoi? Je prends un exemple, la prière eucharistique, au cœur d'une célébration, d'une messe. Ce qui est dit à ce moment-là, c'est le cœur de la foi des catholiques. Alors c'est très important que ce ne soit pas dit de n'importe comment. Parce que celui qui parle à ce moment-là, le prêtre qui dit la prière eucharistique, il dit pas ses idées personnelles. Il parle au nom de toute l'assemblée pour s'adresser à Dieu. Et ce qui doit être dit à ce moment-là, il faut que ce soit le cœur de la foi des disciples du Christ. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Il y en a une certaine parce qu'il y a quand même 10 prières eucharistiques différentes qui existent. Il y a un choix qui doit être fait. Mais une fois que ce choix-là est fait, dis ce qui est écrit là parce que quand tu commences à sortir de ça, il y a des déviations, il y a des risques, tout ça. C'est la foi qui doit être dite à ce moment-là. Alors, quand on me pose la question, est-ce que la liturgie s'est figée? Je dirais, il y a des principes auxquels il faut pas déroger parce que il faut qu'on puisse se reconnaître les uns les autres dans ce qui est célébré. Puis en même temps, il existe aussi beaucoup de marge de manœuvre dans un cadre qui est quand même assez défini, il est vrai, mais il reste beaucoup de marge de manœuvre. Et de toute façon, il faut revenir à ce principe que je disais au début, là, la différence entre la partition et la façon dont on interprète la partition.
Daniel Laliberté, diriez-vous aussi que c'est pas le fruit d'un long discernement aussi en Église, à savoir quels sont les mots, quelles sont les prières qui représentent justement la foi héritée du Christ, la foi des ancêtres dans la foi et que ça a traversé les siècles aussi?
si on retourne au rite essentiel du baptême, de l'Eucharistie, on a là, par exemple, dans le missel pour la messe, on a des textes qui sont hérités, avec un processus de traduction bien sûr, mais qui sont hérités des premiers siècles de l'Église et qui ont passé l'épreuve du temps, si on peut dire, comme la façon dont l'Église souhaite s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours des améliorations à faire. On a un nouveau missel depuis, c'est-à-dire on a une nouvelle traduction du missel depuis 2021, où il y a eu des changements qui ont été faits, où on a essayé de redire les choses de façon un peu différente. Il y a encore de la réflexion à faire, mais il y a quand même ce souci de dire, même si aucun livre liturgique n'est parfait, ce souci de dire, je vais utiliser les mots qui sont là-dedans, parce que en utilisant ces mots-là, je m'associe à la prière de toute l'Église. C'est pas une prière personnelle, la prière liturgique. Ça, c'est une différence importante. Il y a la prière personnelle, quand on est chacun dans sa chambre, dans le secret, comme dit le Christ dans l'Évangile, on peut parler de la façon dont on veut bien avec Dieu. Quand c'est la communauté qui est réunie, ben là, il est normal qu'on n'aille pas dans la direction de ce que chacun veut bien dire, mais qu'on utilise des mots qui sont ceux par lesquels tous les disciples du Christ peuvent se reconnaître lorsqu'ils sont réunis ensemble.
Daniel Laliberté, est-ce que les rites sont importants pour nourrir la vie spirituelle?
Moi, je pense qu'ils sont très importants. Mais on n'est pas des êtres désincarnés. Peut-être qu'un jour, on pourra prier en esprit et en vérité, comme dit le texte de Jésus qui parle à la Samaritaine. Mais dans le concret de notre vie, on est des êtres corporels. Et je pense que de marquer les étapes importantes de notre vie par de la ritualité, de marquer notre vie spirituelle en l'ancrant dans notre corps, dans un certain nombre de réflexes, de façons de faire, ça nous nourrit. Tous ceux qui ont une expérience liturgique savent à quel point même la répétition des gestes finit par, même si ça peut sembler routinier parfois, c'est pas une routine, c'est comme une façon d'ancrer ça dans notre expérience très concrète. Enfin, moi, ma conviction, c'est que les rites qui ont aussi, bien sûr, l'avantage de faire en sorte qu'on se reconnaît les uns les autres. Ça aussi, cette dimension-là est importante. La liturgie, c'est pas comme je disais tout à l'heure, c'est pas la prière individuelle. C'est le fait de se retrouver en communauté. Et quand on est ensemble, on a besoin de codes pour se parler les uns aux autres d'une certaine façon. Le fait d'utiliser du pain et du vin, par exemple, pour l'Eucharistie, c'est un rite. On le refait à chaque messe. Et quand on a saisi la portée de ça, utiliser du pain et du vin, c'est prendre des objets qui représentent toute notre vie et les déposer sur l'autel. C'est une façon de dire tous ensemble en même temps à Dieu à quel point c'est notre vie qu'on veut déposer devant lui pour l'offrir à travers les mains du prêtre. Donc, on pourrait tout dire ça simplement dans des belles formules, mais on passe à travers des actes physiques corporels qui contribuent à notre façon de participer à cet acte-là ensemble. Pour moi, je pense qu'on a besoin de ça, cette dimension rituelle, et on le voit. Les gens veulent marquer la naissance, c'est le mariage, bien sûr le départ vers l'au-delà à travers les funérailles. Il y a encore un besoin de marquer notre vie par de la ritualité.
Daniel Laliberté, la créativité, l'espace de la créativité dans les différents rites liturgiques.
Mm-hmm.
Y a-t-il un peu d'espace?
Oui, il y en a. Il y en a. C'est intéressant, ça suppose d'être capable à la fois de dire, j'utilise le langage de la liturgie pour dire la foi. Ça se fait en respectant une tradition, mais en même temps, il y a de la marge pour trouver des nouvelles façons de le dire. Là où il y a le plus de créativité, on l'a vu beaucoup au Québec, dans le Canada français, c'est dans la dimension du chant. Là, il y a eu énormément de créativité, avec des bons coups et des moins bons coups, mais le temps décante les choses, et ce qui est le meilleur finit par rester, mais pour ça, il y a toujours de l'espace pour continuer à créer. Il y en a énormément.
Il y a aussi les prières universelles, par exemple, à la messe, c'est un espace où on peut élargir notre cœur.
Oui, et je pense qu'on l'utilise pas assez, cette marge de manœuvre-là. Souvent, on se limite aux quelques intentions qui sont déjà préparées quelques mois à l'avance par exemple, prions en église, qui font un très bon travail, mais c'est pas collé à l'actualité, ils peuvent pas, ils éditent ça 6 mois d'avance. Il y aurait de la place pour plus de créativité là-dedans, de se coller davantage. Le prêtre lui-même a de l'espace aussi dans ses monitions, sa façon d'introduire tel moment de la célébration, etc. Et bien sûr, dans l'homélie aussi. Mais il y en existe de l'espace de créativité. Peut-être qu'on pourrait souhaiter qu'il y en ait plus, Ça, il y a de la formation à se donner là-dessus pour être capable de toujours trouver la juste marge, je dirais, entre la créativité et le fait de s'inscrire dans une tradition.
Daniel Laliberté, directeur de l'Office national de liturgie secteur francophone, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça m'a fait un grand plaisir, en espérant qu'on aura l'occasion de poursuivre éventuellement cette réflexion.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci de votre écoute, de votre soutien au micro Renaud Grégoire et je vous dis à bientôt.